Nous sommes un. D'accord. C'est-à-dire que on ne peut pas séparer, bien sûr, notre corps et notre âme. Ça, je pense que maintenant, on le sait tous. Mais on ne peut pas non plus séparer notre partie corporelle de notre partie psychique. C'est-à-dire le psychisme, hein, nos pensées, nos émotions, nos affects, toutes nos activités cognitives, hein, mémoire, production intellectuelle, reconnaissance, même tout simplement en sensoriel. Voilà, non, mais tiens, je sens une table. C'est une activité cognitive, donc une activité psychique. Nos rêves. Voilà. Donc il y a des parties conscientes. Il y a des parties inconscientes, je le sais. Voilà. Je sais que je suis en train de toucher une table. Je sais que je suis en train d'écrire, d'écouter. Puis il y a plein de parties inconscientes. Et dans ces parties inconscientes, hein, il y a des parties qui sont, comment dire, automatiques. Je suis en train d'écrire, je suis pas en train de... Quand on a appris à écrire, alors autant au CP, quand on a dû apprendre à écrire, ça nous a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention. Maintenant, vous écrivez de façon, si ce n'est automatique, en tout cas très automatisée. Donc, c'est pas forcément conscient, mais pour autant, c'est bien disponible. D'accord ? Et puis, il y a les parties vraiment inconscientes, c'est-à-dire des choses qui agissent à travers nous, entre guillemets, sans qu'on s'en rende forcément compte. D'accord ? C'est-à-dire des choses qu'on fait, mais on n'a pas forcément conscience qu'on les fait pour autant. Notre psychisme a un substrat biologique, une matière biologique qui s'appelle les neurones, enfin, le cerveau et les neurones. On a des milliards de neurones. Ce qui fait notre fonctionnement, c'est la connexion de ces neurones les uns avec les autres. Tout est affaire de connexion. D'accord ? Enfin, on est avec un stock de neurones. Plus les neurones se connectent les uns avec les autres, et plus on a de capacité à s'adapter au réel. C'est tout l'enjeu de l'éducation, de l'enseignement, de l'apprentissage. C'est vrai sur le plan intellectuel, j'apprends. C'est vrai sur le plan émotionnel, j'apprends à réguler. C'est vrai sur le plan comportemental. On voit bien, un tout petit, il a des gestes extrêmement maladroits, très malhabiles. Et puis au fur et à mesure, il va apprendre de mieux en mieux. C'est de la connexion neuronale qui va jusque dans les fibres musculaires. D'accord. Donc ce travail-là, il est long. Il commence dès les toutes premières divisions cellulaires. Ce n'est pas encore des cellules neuronales. Hein. La division, la spécification cellulaire, elle se fait un peu plus tard. Mais ça n'empêche que le tout début, c'est dès la première rencontre, la première division. Et la maturation du cerveau, elle s'arrête à 24 ans. Elle est mature, alors elle s'arrête. Voilà, le cerveau est mature à 24 ans. Donc ça nous donne aussi des petits tips sur nos ados. Nos grands jeunes, là, qui ont une vingtaine d'années, « Ouais, moi je suis adulte, c'est bon, je m'occupe, je gère. » Ouais, enfin du haut de tes 20 ans, pas encore complètement mature. En sachant que la dernière zone du cerveau à être mature, c'est une zone qui gère la régulation des émotions. Quelqu'un m'agresse, je lui saute pas dessus, parce que je suis en capacité corticale de prendre du recul sur ce qui se passe et de décider de, éventuellement, le contrecarrer. Hein. J'ai appris des techniques de judo, de boxe, etc. Donc je décide d'intervenir et d'arrêter l'agression, ou de m'enfuir, ou de partir, de m'éloigner. Voilà, mais je décide, et pas « je te fous mon poing dans la gueule parce que tu comprends ». Enfin, je comprends rien du tout, moi non plus d'ailleurs, ça m'échappe. Là, il n'y a plus de régulation émotionnelle. Jusqu'à la planification de ses études, de son avenir, etc. Ça, c'est 24 ans. Après, pour autant, le cerveau ne dégénère pas. On a longtemps pensé que le cerveau, à partir de 25 ans, ça y est, il partait en déliquescence. Non, c'est pas tout à fait ça. Il va juste se spécialiser. Deuxième point qui va être important, parce que ça va nous permettre de comprendre des choses derrière sur le trauma, le cerveau fonctionne par répétition. D'accord ? Une chose géniale que j'ai entendue une fois, c'est... un tout petit sentier que j'aurais bien bien du mal à retrouver, ce qui va très vite être débordé, dépassé par des choses que j'ai entendues plein, plein, plein de fois. Donc typiquement, le compliment que je fais une fois à mon enfant, c'est bien, hein, super. Mais si à côté, je fais 15 fois ou 30 fois dans la même journée une remarque mi-figue, mi-raisin, voire désagréable, du style « tu pourrais faire mieux oh, », t'as encore laissé traîner tes affaires. Eh bien, ce que va entendre l'enfant, ce qu'il va retenir, ce que son cerveau va retenir, c'est « tu as encore laissé traîner ». Le super compliment génial que j'ai forgé, qui vient de tout mon cœur, si je ne le dis qu'une fois, c'est un rapport très, très physique, hein, très mécanique. Donc juste, voilà, et puis nous sommes, enfin, puis dernier tips de nos blessures, nos lieux divisés intérieurement, psychiquement, peuvent être aussi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, être des lieux de croissance spirituelle, des lieux de transformation et de vitalité profonde. D'accord ? Ça va nécessiter de les connaître, de les nommer, parfois d'en prendre soin pour qu'elles contagent, qu'elles ne se répandent pas partout, pour qu'elles puissent être minimum contenues. Et puis, il va falloir les accepter. Hein, c'était l'homélie. Accepter, voilà, cette blessure, cette croix. Parfois, c'est un handicap. Hein, je ne suis pas capable de comprendre un certain nombre de choses. Je ne suis pas. Bref, c'est une réalité. Et après, offerte. Ça, c'est la dimension spirituelle. Là, ma fonction de psy s'arrête là très, très clairement, voire même parfois avant. Mais voilà, il n'y a pas de. On n'est pas divisé intérieurement. Donc, mettre notre psychisme, nos difficultés psychiques, elles peuvent être offertes, elles peuvent être les lieux de croissance spirituelle et elles peuvent devenir des lieux de résurrection. Vraiment, profondément, c'est ce que j'observe tous les jours dans ma pratique. Vraiment. C'est-à-dire, très concrètement, j'ai des patients qui viennent en étant plus ou moins éloignés de la foi, ils ont été baptisés, etc., ou pas. Et puis, à un moment donné, ils viennent me dire « Tiens, au fait, je ne vous ai pas dit... Vous êtes catho, oui, ok, parce que je le dis, alors il le voit, bon, il faut quand même que je vous dise, hein. L'autre jour j'étais à la messe, bon, ouais, au tout début on m'a pas dit qu'un jour il faudrait peut-être que je pardonne à mon père, bon, je vous ai pas dit, mais en fait il y a un mois je lui ai envoyé une lettre, d'accord, pourquoi je précise, je vous l'ai pas dit, ou il y a un mois, parce qu'en fait c'est pas ce qu'on travaille en cabinet de psy, je travaille pas forcément la lettre de pardon, c'est pas mon job, par contre, mettre en place les conditions qui vont permettre psychiquement d'être suffisamment tranquille pour pouvoir faire ces démarches-là, ça, c'est notre boulot, souvent. Alors, et si vous savez le faire, si on sait le faire sans avoir besoin d'un psy, peut-être pas du tout besoin d'aller voir un psy. Si par contre, on voit que ça bloque très fort, là, c'est là où on va nous pouvoir aider. Nous, les professionnels du soin psychique, on va pouvoir aider. Et parfois, ça passe aussi par des médicaments. Et c'est parfois des vraies croix. Hein. Quand on traverse une dépression profonde, on a besoin de médicaments. Voilà, parce que le psychisme n'arrive plus, le système est complètement à plat, et parfois c'est vraiment nécessaire de passer par des médicaments. D'accord ? Donc pas en avoir peur, y aller avec discernement, en sécurité, avec des professionnels qui sont sûrs, mais voilà, y a un certain nombre de pathologies, de situations. Parfois c'est très temporaire, hein, c'est 6 mois, c'est 1 an, et puis après on s'en passe. Parfois c'est plus au long cours, hein, ça fait partie des choses qu'il faut aussi savoir accepter, parce que la prière ne fait pas tout. Pourquoi ça me semble vraiment important de différencier les épreuves, les blessures et les traumas, parce qu'au bout de 25 ans de pratique, il me semble que ce sont 3 lieux différents. La blessure, pour commencer par elle, parce que c'est le terme le plus générique, c'est un manquement à l'amour. C'est l'amour qui a été blessé. C'est dans l'amour que j'ai été blessée, parfois tardivement, voilà, maman qui m'a dit une phrase extrêmement violente, j'avais 15 ans, voilà, mais ça peut être aussi très précoce. Nous faisons à chaque instant du mieux que nous pouvons, avec ce que nous avons comme conscience de nos ressources intérieures et de nos ressources extérieures. D'accord ? Je vais pousser le bouchon un peu loin, ça peut choquer, mais tant pis, j'assume. Quand une maman ou un papa, par exemple, tape son enfant, pour son système interne, c'est la meilleure des solutions possibles. Il peut s'estimer et se juger horrible. Et vraiment, quand je dis horrible, c'est être déchiré intérieurement d'une force, mais épouvantable. Pour autant, il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas, il ne peut pas. D'accord ? Il n'a pas, son système lui dit, c'est ça que tu dois faire, sinon tu vas t'écrouler. Tu vas mourir, tu vas exploser, ou ce sera encore pire que de taper. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être. D'accord ? Donc, il faut vraiment être très doux avec nous-mêmes, nos réactions, nos façons de faire. Hein. Je pars en courant, je me fais pipi dessus quand les gendarmes m'arrêtent, je ne sais quoi. Ok, notre système fait ce qu'il peut avec la situation. Tout le temps, à tout instant. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour notre conjoint. C'est vrai pour tous ceux qui nous entourent. Donc, une immense délicatesse et bienveillance. Ça ne veut pas dire que ah bah, c'est comme ça, tu comprends. D'accord, on n'est pas obligé de dire bah c'est tant pis, c'est pas de chance, et puis voilà, fais avec. On a un devoir, c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. On a aussi un devoir de grandir, de maturer, mais on fait à chaque instant du mieux qu'on peut avec les ressources dont on dispose. Je nuance, dont on a l'impression de disposer. Parce qu'il y a plein de ressources parfois qu'on a, mais on n'en a pas conscience. Intérieur comme extérieur. Donc à chaque instant, on fait du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on pense avoir à disposition. Donc, les blessures sont affectives. Elles relèvent du cœur, elles relèvent de l'amour. Quand une maman n'est pas disponible à son tout-petit parce qu'elle est déprimée, dépassée, parce qu'elle vit un deuil, avec son tout-petit, c'est assez probable, voire même un peu mécanique, qu'il va y avoir des blessures. parce que elle va, pour l'enfant, hein, dans sa relation avec l'enfant, parce qu'elle ne va pas être en capacité d'apporter toute l'attention, toute l'attention ajustée et accordée dont le tout petit a besoin, du haut de sa vulnérabilité. D'accord ? Un enfant de 10 ans qui a une maman qui déprime, qui est en dépression, peut-être qu'il y aura des blessures. Ça sera une épreuve, c'est sûr, je reviendrai après. C'est pas sûr qu'il y ait des blessures. Parce qu'à 10 ans, on est un peu plus capable de comprendre que maman n'est pas disponible, qu'elle est malade, qu'elle va pas bien. Et puis peut-être que la maman, parce qu'avec un enfant de 10 ans, on peut commencer à dire des choses, va être en capacité de dire « Écoute, là, je vais vraiment pas bien, et je t'aime. » À un tout petit de 4, 5, 6 mois, la communication, l'expression, tout ça va être beaucoup plus compliqué. Et le besoin d'attention, d'accordage, hein, donc de réaction très ajustée aux besoins, est tellement immense que l'indisponibilité est trop importante pour que ça ne se vive pas pour le tout petit comme quelque chose de l'abandon et donc d'une blessure d'amour. Voilà. Donc blessure, l'affectif, le cœur, l'amour. On voit bien qu'il y a une corrélation hein, avec l'âge, la vulnérabilité, l'état de vulnérabilité. Les épreuves. Les épreuves, ça fait appel à notre cerveau pour le coup. Ça demande de la ressource humaine, mais extérieure. Hein, voilà. Quand on a une épreuve, on est content d'être en communauté, d'avoir des amis qui viennent, qui nous soutiennent. Épreuves, le deuil, les maladies, les handicaps, bien sûr. Tout ça sont des épreuves. C'est-à-dire des adversités de la vie, voilà, parfois accidentelles, parfois plus chroniques. Chronique, quand on perd un parent, quand on est orphelin d'un parent, c'est une épreuve. C'est aucun doute là-dessus. Ce n'est pas pour autant forcément traumatique et ça ne génère pas forcément des blessures. Alors je ne dis pas forcément, je mets plein de bémols. C'est assez probable qu'un tout petit qui perd sa maman, il va le vivre lui comme une blessure. Maman m'a abandonné. D'accord, c'est logique. Hein, d'accord, donc il va vraiment vivre un manque terrible, même si sa maman n'y est pour rien, parce que c'est tout un travail derrière, pour entendre que voilà, maman est partie et que c'est pas pour autant qu'elle l'aimait pas. D'accord ? Mais dans son vécu de tout petit, avec sa vulnérabilité tout petit, il va le vivre comme une blessure. Là encore, un peu plus grand, ça pourrait être différent. Ça pourra, ça l'est pas toujours. Donc une épreuve, ça va nous demander de la ressource. Intérieure, extérieure, voilà, je vais faire face. On voit ça très bien, très simplement, avec par exemple un enfant qui se casse un bras. Vous savez, le bras droit, là, avec lequel il écrit tout le temps, il se le casse. Quand l'enfant est OK, quand il va bien, assez spontanément, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va apprendre à faire des choses avec la main gauche. Alors, et pas forcément pour écrire ses leçons, hein, okay ? Mais il va mettre en place de ce qu'on appelle la stratégie de coping, c'est-à-dire de faire face. Je fais face à la... Je trouve des ressources. Donc, ça peut être l'occasion pour lui d'aller se plonger dans de la lecture, ça peut être l'occasion pour lui d'apprendre quelque chose, d'aller solliciter des adultes. D'accord ? Donc, voilà, l'épreuve, elle sollicitait de la ressource à l'intérieur de nous, développer des choses qu'on est capable de faire, et à l'extérieur. Pas toujours auprès des parents. Pas toujours dans le premier cercle, parfois un peu plus loin. Donc ça demande aussi un peu d'adaptation de ce côté. Et puis enfin, le trauma. Et ça, le trauma, c'est une réalité neurologique. Le trauma, c'est un court-circuit de la pensée, je l'ai expliqué un tout petit peu hier. C'est le réel qui est insupportable pour les capacités psychiques, et qui du coup fait disjoncter le système de façon à pouvoir, comme un disjoncteur de compteur électrique, protéger tout ce qui peut être protégé dans le psychisme. Ça disjoncte et ça permet de protéger l'estime de soi, des bouts d'histoire, etc. En fonction de l'intensité de ce réel et de l'état dans lequel est le psychisme au moment où l'événement arrive, ça fait plus ou moins de dégâts. Exactement comme un courjus. Parfois, c'est juste une ampoule, voilà, c'est juste le grille-pain qui déconne. Donc, bon, bah, ça touche pas grand-chose. Il y a une prise électrique qui a disjoncté, puis le grille-pain qui est. Hein. Parfois, si c'est la foudre qui est arrivée ou que il y a une énorme surtension, c'est tout le circuit électrique, c'est tout le tableau électrique qui saute. Et avec l'ordinateur grillé, la télévision, enfin l'horreur, quoi. C'est le début du cataclysme familial. D'accord. Donc, le trauma, c'est des réseaux neuronaux qui se coupent. Qui switch, hein, tout simplement, vous imaginez, clou, 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 plein de petites coupures, plus ou moins grosses coupures. Quand le trauma est très important, ça fait une énorme déflagration, et ça peut mettre par terre, vraiment, hein, la personne, c'est-à-dire elle peut s'évanouir, elle peut faire un arrêt cardiaque, hein, voilà, elle peut mourir d'un trauma, d'une situation réelle qui est insupportable. Le plus souvent, c'était quand même un peu plus soft, mais ça fait des trous de mémoire, une incapacité à se souvenir de l'événement, parfois même de ce qui s'est passé avant l'événement. Ça peut faire aussi une désorientation, on ne sait plus où on habite. Ça peut être plus ou moins ponctuel. Voilà. Donc là aussi, toujours cette chose un peu particulière, ça dépend de quand ça arrive, à quel moment, comment je suis à l'intérieur, et puis de l'intensité de ce qui arrive. C'est pas, il n'y a pas de mécanique. Hein, c'est pas, bah, alors, tu as vécu un accident de voiture, ok, donc là, amnésie traumatique 2 jours, et puis déboussolement spatio-temporel 3 jours. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Il n'y a pas de corrélation directe entre l'événement et l'état dans lequel on est après. Parce qu'il y a un facteur qui est comment je vais quand ça arrive. D'accord? C'est vrai pour la blessure, un peu. C'est assez vrai pour l'épreuve. C'est totalement vrai pour le trauma. D'accord? L'état dans lequel je suis, l'âge que j'ai, l'état de vulnérabilité quand je suis. Hein, adulte, on peut être vulnérable. Hein. Je viens de perdre un parent, il m'arrive un accident de voiture, ça ne va pas faire la même chose que si j'étais bien et en forme. Hein. Je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle, bah, quand il y en a une autre qui survient, ça peut faire un trauma. Le problème, c'est que très souvent, la blessure, enfin l'épreuve, se rajoute à une blessure, et ça finit par le fait qu'à un moment donné, un petit événement du réel, pas si forcément si important que ça, devient traumatique. Je vous donne un exemple assez simple. On va prendre un exemple de maladie, par exemple. Hein, d'accord? Un enfant qui apprend que bah, il a une maladie. Okay? Qu'il ne peut pas manger de sucre, par exemple. Un diabète. Ça, c'est un exemple assez classique, malheureusement. Et surtout aujourd'hui. L'enfant, voilà, il a 5-6 ans. Et puis, bah, on voit qu'il fait des malaises, etc. Le diagnostic, entre guillemets, tombe. Diabète. C'est une épreuve. Hein, on est d'accord? Il va falloir s'adapter, il va falloir trouver des ressources, c'est douloureux, enfin, c'est vraiment difficile hein, pour un enfant de devoir prendre de l'insuline, de devoir se réguler, c'est vraiment compliqué. Jusque-là, on est dans l'épreuve. Et puis il va à l'anniversaire d'un petit copain, puis bah, il prend pas le gâteau, parce qu'il ne peut pas prendre le gâteau. Et là, il y a la maman qui fait un peu attention, elle est au courant. Donc, ah, est-ce que tu veux, je te propose une glace à l'eau. Super, la glace à l'eau. Avec le moins de sucre possible, etc. C'est gentil, c'est prévenant, ok, ça passe. Mais c'est de nouveau. Et puis là, il y a celui qui ne sait pas. Ah, elle a l'air dégueulasse ta glace à l'eau. T'as vu, moi je suis content. Attends, t'es chochotte, tu fais un régime, toi. Ah, là, tout de suite, c'est plus tout à fait la même. Si c'est un petit camarade avec lequel je joue tous les 4 matins, enfin voilà, un peu, non pas justement pas tous les 4 matins, voilà, de temps en temps, ça va pas me faire grand-chose. Si par contre c'est mon soi-disant meilleur ami, ou celui avec lequel j'ai vraiment très envie d'être ami en ce moment, ah, là je suis dans la blessure, parce que c'est mon affection qui est touchée. Donc à l'épreuve, c'est surajouter une blessure. Et puis on multiplie ça par 1, 2, 4, 10, 12, jusqu'à ce que par exemple à un moment donné, ce soit une maîtresse de remplacement, allez, on va dire qu'elle est de remplacement, qui arrive. Ben, puis le gamin fait un malaise ou dit je dois sortir parce que là je vais pas bien. Non mais attends, vous restez à votre place, assis. Ça suffit. Et là, le gamin fait un malaise. Là, on est dans le trauma. Parce que comment est-ce qu'un petit bout de chou de 6 ans peut dire à sa maîtresse non mais en fait il faut que je. Ça demande vachement de ressources. Hein. S'il en est capable, c'est super, mais la plupart du temps, il n'en sera pas capable. Donc là, on va basculer dans quelque chose que le système ne peut pas gérer. Ça demande trop de ressources. Et donc, ça fait un effet de sidération, ça disjoncte, et le gamin, il va se trembler, il va se mettre très en colère, il peut décharger très fort. Les trois stratégies d'adaptation, je fuis, j'attaque, ou je me fige. Fige, il va être tétanisé, bon, puis la maîtresse va passer à autre chose, et puis ça passera souvent inaperçu, hein, et puis on apprendra très longtemps après qu'il s'est passé un truc. Quand l'enfant décharge, en général, on sait. Hein, donc il va se mettre à hurler, à taper, il va se rouler par terre. Et donc ça, la maîtresse va se charger de nous dire que ça va pas du tout. Ouh, il est insupportable. Oui, enfin oui, je comprends que pour vous c'est insupportable, mais c'est vrai, c'est pas un comportement OK, c'est pas un comportement adapté, mais bah, c'est sa façon à lui de gérer ce qui est insupportable. Et puis quand il a fui, bah, il a trouvé une stratégie, il s'est mis au fond de la classe et puis il a géré comme il a pu. Enfin c'est de la fuite, hein, donc c'est jamais tranquille et sécure. Une blessure, c'est l'affect, c'est le cœur, c'est l'amour que j'ai qui est blessé, qui est abîmé, qui a une réponse, enfin, qui ne, mon élan ne, n'est pas répondu. D'accord? La réponse qui m'est faite n'est pas à l'endroit où moi j'ai besoin qu'on me réponde. Comme si, comme vous imaginez une harmonie, et puis d'un coup, clac, ça deviendrait désharmonieux. L'épreuve, la situation d'adversité qui demande de la ressource et auquel on est capable de faire face. Avec de l'aide, hein. Pas forcément tout seul du tout. Mais voilà, hein, dans un deuil, heureusement qu'on n'est pas tout seul avec son deuil. Hein. D'accord? C'est pour tous les rituels, etc. Ils nous aident à passer des épreuves. Ils sont là pour ça. La vie qui s'arrête, les funérailles, tout ça, c'est des rituels qui nous permettent d'avoir des ressources pour passer. Et on n'est pas, après un deuil, on n'est pas pareil le jour même, 3 jours après, 5 jours après, une semaine après, un mois après. Et toutes les étapes, elles vont être nécessaires pour que ça ne reste qu'une épreuve autant que possible. Si on nous demandait de mettre, de faire le deuil et d'enterrer le jour même de l'annonce, eh ben, je peux vous garantir qu'on a eu du trauma encore plus, parce que c'est trop. Ça demande trop au système, d'accord, d'absorber une nouvelle et en même temps d'engager de l'action. Notre temporalité n'est pas celle-là. On a besoin de temps pour intégrer un peu. Voilà, et donc le trauma, la sidération neurologique. La différence entre un adulte et un enfant. Je dis, mais pourquoi vous avez écrit un bouquin sur les blessures d'enfance? Bah parce que les blessures d'enfance, elles ont cette spécificité d'arriver dans l'enfance. Ah, merci madame, super, merci Bénédicte, trop sympa. C'est quoi l'enfance? C'est un état de vulnérabilité. Infance, ça veut dire privé de parole. D'accord? Bien sûr qu'on sait qu'un bébé ne sait pas parler, bravo, bravo. Le sujet n'est pas là, c'est qu'en fait, au-delà même de la parole, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un enfant apprend à parler que pour autant, il a la parole. Il a la parole à... Quel âge le cerveau est-il mature? 24 ans. Donc en gros, on est enfant, infance, privé de parole jusqu'à 24 ans. Bien sûr qu'il sait articuler des paroles, mais il ne peut pas articuler pleinement toute sa pensée pour la simple et bonne raison que son cerveau n'est pas tout à fait terminé. Donc il y a des fonctions qui ne sont pas opérantes. Si vous imaginez comme si vous avez un tableau de bord, et bien il y a des touches, ça ne marche pas. C'est pas très opérant. Ok? Donc, alors, il faut nuancer, hein. C'est sûr qu'à 24 ans, on est quand même capable d'articuler une pensée, on est capable, voilà, mais il y a quand même des petites fonctions qui ne sont pas encore complètement OK, ça bug, c'est pas abouti, d'accord? Donc, quand on est enfant, on a cette immense vulnérabilité que comme on n'a pas l'accès à la parole, on n'a pas l'accès plein et entier à la pensée, à la logique, et donc on n'est pas en capacité de traiter le réel avec toute la capacité humaine disponible. On en a une partie qui est en train d'en continuer à maturer. On a aussi une immaturité motrice. Alors cette immaturité motrice, elle n'attend pas 24 ans pour le coup. Hein. Elle s'arrête. Voilà. En gros, on est abouti physiquement autour de la vingtaine, une fois que la puberté est passée, parce que ça chamboule un peu. Hein. On se retrouve avec des espèces de membres. Alors pas moi, je suis trop petite. Mais, hein, vous savez, les gars, ils sont avec leur paluche, là, ils savent pas trop quoi faire avec leur grand membre. Ils savent pas quoi faire. Les filles, elles savent pas quoi faire de leur corps. Bon. Donc en gros, on est intégré physiquement autour de la vingtaine. C'est-à-dire que quand le système hormonal s'est calmé, posé, régulé, entre 16 pour les plus jeunes et 20, 21 même parfois. D'accord? Mais donc ça dure longtemps quand même l'immaturité motrice. D'accord? C'est-à-dire que si je suis immature ou pas complètement mature sur le plan moteur, eh ben, quand il va falloir faire face, quand il va falloir réagir physiquement, eh ben, je ne vais pas avoir tout mon plein potentiel. Donc je sais que je suis vulnérable. Alors, vous allez, ouais, mais c'est bon, je crie fort. Non, mais maman, t'inquiète, c'est bon, ça va, je sais faire. Ouais, enfin, pas encore tout à fait à droite, peut-être pas encore tout à fait régulé dans la force de ton geste. D'accord? Donc, on a beau faire l'effort à bras, à l'intérieur, on sait qu'il y a une forme de vulnérabilité, que c'est pas encore complètement abouti. Et c'est important de le savoir, d'ailleurs. Hein, donc, il faut pas le nier. Mais non, non, mais t'inquiète pas, je sais que t'es fort. Oui, je sais que t'es fort et je sais aussi que t'y es pas encore tout à fait et que c'est à moi, encore adulte, de réguler ça. Et puis, parfois, ça dure après 24 ans aussi, mais enfin, pas trop. Enfin, ce serait bien que ça s'arrête quand même autour de 24 ans. Je suis dépendant. Je suis dépendant des autres, je suis dépendant des adultes. Alors, il dit, oui, mais ils sont majeurs à 18 ans. Ouais. Ouais, ils sont majeurs à 18 ans. Quand est-ce qu'on renfloue le portefeuille? Alors, c'est plus un portefeuille, c'est un compte en banque. Quand est-ce qu'on paye les études, les voyages, les trucs, les machins? Certains sont autonomes. Voilà, parfois, il faut qu'ils le soient pour plein de raisons. Dans la réalité, on se rend compte qu'ils ne le sont que partiellement. D'accord? Donc, la dépendance à l'adulte, ça fait que je dépends de l'amour de l'adulte, de leur bienveillance. Donc même si j'aime très fort tel ou tel, et ben en fait je suis mon père, ma mère, ma prof, hein, mon frère aîné. Pour autant, je suis quand même dépendant de lui. Et que c'est une forme de vulnérabilité que la dépendance. C'est très beau, c'est très humain. Hein. Je répète ce que j'ai dit hier. Nous ne sommes pas faits pour être des nomènes indépendants et individualisés. Hein. D'accord. On est profondément, intrinsèquement, vraiment conçus pour et par la relation. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on ne se guérira, y compris psychiquement, que grâce et par la relation. D'accord ? D'où l'intérêt des psys, mais aussi des amis, etc. D'accord ? Donc, je me guéris tout seul avec un bouquin. Le premier qui y arrive, il vient me voir, je serai contente d'échanger et puis de me rendre compte qu'en fait, il y a peut-être d'autres choses qui sont arrivées par-dessus. Ça ne marche pas. On a besoin de la relation. D'accord ? Vraiment, c'est dans la relation que nos neurones aussi s'activent de façon complète. Sinon, on n'active que certaines zones par la connaissance. Quand je lis, il y a des choses qui s'activent, mais pas tout. Ça va déjà être un peu moins mauvais si je regarde quelqu'un qui fait. Si je regarde une maman qui berce son enfant, voilà, mes neurones miroirs, qui fonctionnent en miroir, vont activer des zones dans mon cerveau comme si moi j'étais en train de bercer l'enfant. D'accord ? Donc ça va réactiver des circuits de moi qui ai été bercé. Donc ça fait quelque chose. Mais j'ai bien eu besoin d'une maman qui berçait son enfant, de quelqu'un qui a pris la vidéo et qui a mis en place de la technique pour que moi je puisse le voir, par exemple. Ou même si je suis dans la rue ou dans un square. Les mamans qui ont eu des jeunes femmes qui ont eu des expériences compliquées avec leur maman, on voit bien, quand elles sont dans des squares et qu'elles voient des mamans qui bercent leurs enfants et qui s'en occupent. Dans leurs sentiments, il se passe des choses, mais en fait, petit à petit, elles témoignent en disant, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris mon enfant un peu comme la dame que j'ai vue l'autre fois. Voilà, et que je n'avais pas tout à fait le même geste. Voilà. Et puis, j'ai vu qu'elle le portait à droite et pas à gauche, et ça ne faisait pas pareil. Ouais. Donc, on a besoin de l'humain dans l'exemple, dans ce que ça nous montre, et parce que ça nous active. Donc, être un enfant, vivre des choses, vivre une épreuve d'enfant, vivre une blessure d'enfant, vivre un trauma d'enfant, ce n'est pas la même chose que lorsque l'on est adulte. Parce que quand on est adulte, on est moins vulnérable, on est moins dépendant. Et on a plus de capacité à aller chercher des ressources aussi, ça c'est vachement important. Un enfant de 8 ans, quand il vit une épreuve, il dépend de qui pour aller chercher des ressources ? Ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, ses voisins, sa maîtresse, c'est déjà pas mal. Mais nous, quand on est... quand nous, adultes, quand ça nous arrive, on va aller chercher... truc bidule à perpétuer des paluches, on va être capable de se dire « Ah tiens, mais il y a bidule que j'ai rencontré il y a tant de temps, je pourrais peut-être... » Voilà, on a une capacité à trouver des ressources bien plus importantes, et puis on a un contact en direct, on n'a pas besoin d'intermédiation. Alors que l'enfant, il va avoir besoin de passer à peu près toujours par quelqu'un qui fait un intermédiaire. D'accord ? Donc ça le met dans une situation de vulnérabilité importante. J'ai déjà dit, mais je redis très rapidement, je vais juste lire... Un même événement génère des réactions différentes. Il n'y a pas d'équivalent entre un événement et une conséquence. C'est pas parce que j'ai vécu, une agression ou un harcèlement quand j'avais 8 ans, que pour autant, à 20 ans, il va se passer ça dans ma vie. Ou même qu'à 10 ans, je serai comme ça. C'est pas vrai. Y a aucune équation entre un événement et ses effets. Il n'y a pas de lien quantitatif non plus systématique. Alors quand même, il y a quelques situations, faut pas s'attendre à ce que ça soit super facile derrière. Inceste, abus, agression physique. Dès qu'on touche au corps de l'enfant, par la violence ou par l'abus, le système tente de se protéger et met en place des stratégies pour se protéger. D'évitement, d'agression... de perte de mémoire, notamment, principalement là-dessus. D'accord ? On ne touche pas au corps d'un enfant de façon non respectueuse sans que celui-ci, parce qu'il tout passe par son corps, tout, puisqu'il n'a pas encore la parole, n'ait des faits psychiques. D'accord ? Ça, c'est vraiment... Voilà. Donc, c'est important pour nos enfants, c'est important dans nos vies aussi de se dire, en fait, si c'est passé ça, même si je vais bien aujourd'hui, d'accord, j'ai l'impression d'aller bien, et puis je me débrouille pas si mal que ça, il y a quand même des endroits où j'ai été obligée de m'adapter, j'ai été obligée de mettre en place des stratégies qui m'entravent. Je rappelle le thème, l'unité, et donc la liberté. D'accord ? Si je suis unifiée, je suis libre. Et si je suis entravée, je ne suis pas complètement libre, et de fait, je suis désunifiée. Le facteur de gravité numéro 1, c'est le lien affectif. C'est évident, je l'évoquais tout à l'heure, je le rappelle, que si c'est mon frère, ma mère, mon parrain qui me fait du mal, ou qui n'a pas une relation accordée avec moi, ça me fait beaucoup plus de mal que si c'est Tartempion que j'ai vu une fois. Je remets quand même, modulo, l'agression physique. D'accord ? Parce que le racket, par exemple, qui est fait à la sortie du collège, il fait des gros dégâts. Même si je ne l'ai jamais vu, le gars, je l'ai vu qu'une fois. Mais ça fait un gros dégât parce qu'il y a une agression physique. Okay. Mais sinon, si c'est Tartempion que j'ai vu une fois et qui me fait une remarque du style « Oh, t'es trop nul, toi !» petit con. Ok, bon, voilà, et autre grossièreté, le florilège des enfants est bien plus large que ça. Et ben, si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais le regarder, ouais, puis c'est pas sympa, c'est pas agréable. Mais si par contre, c'est mon voisin, c'est mon très bon ami, là, ça fait pas la même. D'accord? Donc la proximité affective, elle est évidemment impactante. Et je le répète, l'âge et l'état de vulnérabilité dans lequel je suis. C'est les deux grands facteurs. D'accord? Donc si on cumule les deux, hyper proche et hyper jeune, ça fait des gros dégâts. Quand on subit un trauma, ça fait de la dissociation, c'est-à-dire que hein, ça disjoncte, ok. Et cette dissociation, elle se traduit en symptômes, comme on dit dans notre jargon, qui sont de quatre ordres. La déréalisation, c'est-à-dire j'ai le sentiment que ce que je vis n'est pas. Comment dire, que je ne vis pas le réel. Voilà, que ce que je vis, ce n'est pas réel. J'ai un peu l'impression d'être dans un rêve, d'être un peu là et pas là, que ce n'est pas vraiment vrai ce qui est en train de se passer pour moi. Ça peut être très ponctuel, comme ça peut être très récurrent. Ça peut être dans certaines situations spécifiques en lien avec la situation traumatique, comme ça peut être complètement déplacé, apparemment. Parfois, je ne fais pas le lien. Il y en a toujours un, mais je ne le fais pas forcément. Ça, c'est un premier symptôme. Le deuxième, c'est la dépersonnalisation. Je fais un truc, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui agis. J'ai l'impression qu'il y a une marionnette hein, voilà, que quelqu'un fait à l'intérieur de moi. Voilà. Voilà, je suis en train de me voir faire quelque chose, mais ce n'est pas moi qui est en train de faire ça. Mais c'est hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple. Hein. Je suis en train de taper mon enfant ou je suis en train de j'en sais rien, de voler ou même de. Voilà, hein. Ou dans un moment d'addiction, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui n'a pas le contrôle, quoi, concrètement, qui agit malgré moi. Dépersonnalisation, hein, donc c'est pas vraiment moi, j'ai l'impression d'avoir une douzième personne à l'intérieur de moi qui agit, enfin c'est fait des trucs assez inconfortables, là encore, ponctuels, récurrents, systématiques ou occasionnels. Le troisième symptôme, c'est le vécu d'étrangeté. Alors, je ne reconnais pas les gens autour de moi, j'ai l'impression d'être dans un endroit que je ne connais pas alors que je le connais très bien. Je sais très bien que je suis dans ma ville et dans tel quartier, mais c'est comme si je ne savais plus où j'étais. D'accord? Je ne sais plus reconnaître là où je suis. J'ai l'impression que c'est un environnement complètement nouveau. Voilà, c'est étrange. Voilà, ça ressemble un peu à la déréalisation, et en même temps, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Déréalisation, ce n'est pas réel. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Là, ce que je vis, c'est bien réel, mais j'ai l'impression que c'est étranger à moi. Que je suis étranger à la situation. Donc, un truc qui est décalé. Et puis la dernière, c'est l'amnésie. J'ai envie de dire que c'est le symptôme le plus grave d'une certaine manière, puisqu'il n'y a plus d'accès à la conscience. Une partie de l'amnésie, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, vous avez tous entendu parler. C'est un des symptômes qu'on décrit le mieux, qui peut être très limité sur l'événement, qui peut être très très large. Il y a deux types de traumas. Il y a le trauma simple. Il m'est arrivé un accident une fois. Voilà, je vis le Bataclan, c'est un trauma simple. C'est horrible, hein. Simple parce qu'une fois. Plus ou moins grave, plus ou moins conséquent, mais c'est une fois à un moment donné. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les traumas complexes, c'est-à-dire la répétition de situations très vulnérabilisantes dans ma vie. Ça peut être sur une période, par exemple une période de guerre. Voilà, là on est, voilà, situation de guerre, les bombes qui tombent, les alertes. Voilà, là on est typiquement dans des situations qui peuvent générer du trauma complexe parce que c'est répété pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois 10 ans. En plus, d'accord. Les violences, par exemple, hein, bien sûr, éducatives, parentales aussi, hein, voire de la violence, ça fait grâce aux neurones miroirs. Ça fait comme si moi, j'étais dans la scène de violence. Donc, quand papa et maman sont en train de se taper dessus, l'enfant a à peu près les mêmes effets neurologiques et traumatiques que s'il était lui-même tapé. Donc, il faut faire attention. Quand on s'engueule, c'est mieux de le faire, pas dans la maison. Voilà, quand on a besoin de se dire des choses et que c'est sort trop fort, ou parce qu'on a des tempéraments très emportés, parce qu'on est débordé, on sort tout de suite. Il vaut mieux sortir et quitte à demander à ce que quelqu'un vienne ponctuellement, mais pour les enfants, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment ça fait comme s'ils étaient pris dans la situation de violence, donc c'est pas très cool. Je dis ça, ça m'est arrivé de m'engueuler avec mon mari devant les enfants. D'accord. On fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, avec les ressources dont on a conscience et qui sont disponibles. Ok. Mais voilà. Donc, trauma simple, trauma complexe, pourquoi? Parce que Moi, je vois plein de gens qui arrivent avec de l'anxiété, avec du stress chronique, avec « fait trois fois que je change de copine, je comprends pas avec... ». Ok, vous repérez des causes. Non, mais moi, j'ai rien vécu de... Non, bah, tout va bien dans ma vie. Enfin, voilà. Voire même, j'ai une enfance très heureuse, parce qu'évidemment, un psy, forcément, va dire que c'est l'enfance qui n'est pas heureuse. Hein. À quel endroit on a vu ça? Moi, je vois plein de gens qui ont des vrais symptômes psychologiques, psychiques importants, hein, handicapants, parce que ne pas dormir, hein, c'est quand même un peu handicapant dans la vie, hein, surtout quand il faut bosser ou s'occuper d'enfants, le sommeil est encore plus important. Donc, c'est handicapant, mais ça ne veut pas dire que l'enfance a été malheureuse ou que les parents ont été mauvais. C'est juste qu'à une période donnée, à certains endroits donnés, il y a une forme de carence, il y a une forme de violence parce qu'il n'y a pas de disponibilité, parce que ce n'était pas juste à cet enfant-là, parce que mille et une raisons, hein, dépendant des parents parfois, parce qu'ils ont appris une certaine manière d'éduquer, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont appris eux-mêmes des générations précédentes, appris intellectuellement, mais surtout appris dans le comportement. Hein. Quand on a entendu toute son enfance, ses parents régler les problèmes à coups de « je crie dessus », qu'est-ce qu'on fait? On se crie dessus, on fait la même chose. Hein. Même si on sait, on a vu dans tous les bouquins que c'était pas bien, c'est quand même ce qu'on a appris, parce que le cerveau apprend par répétition. Donc quand bien même je sais que c'est pas ce qu'il faudrait faire, c'est quand même ce que je fais. Hein. Voilà, donc on est bien, hein, et on tourne comme ça. Ok. Donc le trauma complexe, c'est un sujet qu'on est, en psycho, il faut le comprendre, c'est avoir un peu de connaissances là-dessus. C'est un sujet qu'on a ouvert il y a une dizaine d'années, d'accord. Le trauma, ça fait 50 ans qu'on en parle, parce que la guerre, etc., c'est un sujet qu'on connaît bien et qu'on a bien décortiqué, et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui présentaient les mêmes symptômes que des traumatisés de guerre, sauf qu'eux, ils n'avaient pas vécu la guerre, mais vraiment pas. Et qu'ils n'avaient même pas forcément des parents qui avaient vécu la guerre. Donc, on ne pouvait même pas dire, non, mais c'est le trauma qui s'est transmis, c'est encore autre chose. D'accord ? C'est comme ça que petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, ces mécanismes-là, ils pouvaient se vivre, entre guillemets, en plus petit, mais comme c'était plutôt, et ou que c'était répété, ça fait du trauma. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément visible, ce n'est pas forcément étiqueté, mais pour autant, ça peut être là. On est même en train, tout doucement, avec un certain nombre de professionnels qui travaillent sur le trauma, de dire, en fait... peut-être qu'on pourrait lire toutes les pathologies psychologiques comme étant de la dissociation et du trauma. D'accord ? Bon, ça va évoluer, on se dit en tout cas, ça va avoir beaucoup plus de prégnance et d'incidence que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années. Ça, c'est la neurobiologie qui nous le donne. Ce que je vous propose pour essayer de mieux voir ce que font les épreuves et les blessures, on va faire un petit détour par les quatre éléments. Alors, si vous avez vu Vice Versa 1, vous connaissez ça par cœur, enfin pas par cœur, mais vous avez des bribes. Donc, quatre éléments, si je vous dis, allez, comme à l'école, l'eau, l'air, la terre, le feu. Il y aurait le feu. Oui, pourquoi je dis on va mettre le feu? Parce que bien sûr qu'on a demandé le feu de l'Esprit Saint, d'accord? Bien sûr qu'on demande l'eau du baptême, d'accord? Bien sûr qu'on est incarné. Qu'on fait Genèse, je ne vais pas relire la Genèse si vous voulez bien, hein, voilà. Et l'air, bien sûr, l'Esprit Saint, et puis le Verbe, hein, aussi, hein, ça passe par la parole. Okay. Donc, voilà, premier lieu là, ensuite deuxième lieu, on a combien d'évangélistes, rappelez-moi? 4. Allez, je vous laisse faire des associations à l'occasion, vous allez réfléchir. Voilà, on les voit très bien. On a combien de saisons en Occident? 4. D'accord. La croix, c'est combien de membres? 4. D'accord. Nos églises sont en forme de croix. Okay. Donc, les quatre éléments, ce n'est pas un truc des New Age. Non, c'est quelque chose de profondément inscrit dans notre foi, dans notre incarnation. On l'a un peu laissé tomber. Si vous regardez les monastères, il y a un jardin, vous savez, le jardin monastique, il est comment? On croit avec 4. Et on cultivait quoi? Des plantes adaptées aux 4 saisons et aux 4 éléments, etc. Donc, en fait, voilà, les 12 signes du zodiaque, même topo, hein. On les voit sur toutes les cathédrales. Alors, Madame Irma, avec son machin qui va vous dire qu'on est complètement à côté de la plaque, pour autant, vous regardez les frontispices de vos cathédrales, de nos cathédrales, elles ont quasiment toutes les signes du zodiaque. C'est pas parce qu'ils tiraient des cartes. Hein. Vraiment, ils avaient autre chose à faire que de faire du superflu. Donc, si ça a été inscrit, c'est que ça dit quelque chose de l'ordre naturel, voulu par le bon Dieu. Okay. Donc voilà, juste ça. Après, on ne va pas en faire des tonnes, mais on ne va pas chercher quelque chose loin, c'est au contraire disponible. Et comme c'est disponible et que c'est simple, c'est élémentaire, Si on pouvait s'en servir, ce serait peut-être pas mal, ça nous ferait du bien, plutôt que de faire de la pensée sur des choses. Donc, quatre éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Je vais commencer par l'air. L'air, et ben là, j'entends que ça souffle, voilà, on respire, ok. Physiquement, c'est là. La parole, la respiration, la communication, mais aussi la créativité et l'inspiration. Donc, physiquement, tout ce qui est, en gros, du nez jusqu'au diaphragme, d'accord ? Tout ce qui relève de l'inspiration, l'expiration. Expression, poésie, art, c'est du registre de l'air. En termes de qualité, parce que ça se décline sur tous les plans, hein, d'accord ? En termes de qualité, de tempérament, hein, on est sur la légèreté. On est sur l'aérien, merci. Hein. On est sur la légèreté, l'amusement aussi, d'accord ? On est sur le rire, d'accord ? Sur tout ce qui est... Voilà. Donc là... Voilà. Et puis physiquement, parce que ça s'inscrit aussi dans notre incarnation, bah, les gens qui sont très R, je reviendrai après la suite, les gens qui sont très R, c'est Gaston Lagaffe, pas toujours, hein. Mais vous voyez, physiquement, les R, plutôt fin, long. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Ok, merci. Le feu, l'énergie, d'accord. Où est-ce qu'on est tout feu, tout flamme? Là, et puis là, hein. Poum, d'accord, l'affectif. Et le mental, il s'enflamme, il a plein d'idées, il a une énergie de dingue, une volonté. Ok, ça c'est le feu. De l'énergie, de l'enthousiasme, de la passion, de la jalousie, ça quand il y a beaucoup, beaucoup de feu. Je fais dans les excès, ça peut m'aider à comprendre quand c'est tempéré. Donc le feu, plutôt le mental. D'accord, hein, voilà, ça. Quand on n'arrive pas à dormir la nuit. On sent bien ça. Donc le feu, l'énergie, l'enthousiasme, on est plutôt du côté du mental et de l'affectif. L'opposé du feu, c'est l'eau. L'eau, où est-ce que ça va être l'eau ? Dans notre corps, physiquement, si on devait le situer quelque part. Bon, partout, hein, ouais, ok, 70% de notre corps, mais je crois que c'est même un peu plus. C'est de l'eau. Ok. Mais quand même, le deuxième cerveau du corps. Parce que c'est quoi ? C'est le cerveau des émotions. Les émotions, c'est de l'eau. Hein, c'est fait des vagues. La vague de colère qui me submerge. Et la vague de tristesse qui m'aplatit. Okay, voilà. Donc, ce sont des vagues. Ce ne sont que des vagues, au demeurant. D'accord ? Donc, on se calme. Voilà. Quand il y a des émotions, elles sont là. Et elles passent, comme des vagues. Pas obligé de s'accrocher dessus. Mais c'est aussi le lieu où on a tous grandi. Donc c'est le lieu de la vitalité, de la fécondité aussi. D'accord ? C'est vrai pour les femmes, mais c'est aussi vrai pour les hommes quand même. Hein ? D'accord ? Donc prendre contact avec nos émotions, être bien dans notre ventre. Quand on a une digestion qui ne fonctionne pas bien, souvent on voit bien qu'il y a des émotions qui ont du mal à sortir, qu'il y a un lien entre notre état émotionnel et ce qui se passe dans notre digestion. Mais voilà, le ventre, l'émotion... Et c'est ça qui est génial, parce que comme pour tous les éléments, ça se restreint pas à un endroit, évidemment, ça circule dans tout notre corps, notamment par le système veineux. Parce que tout ça, c'est unifié, c'est pas séparé, déconnecté les uns des autres. Okay. Et puis, le dernier élément, du coup, la terre. Pourquoi je l'ai mis en dernier, pourquoi j'ai fait un petit détour ? Parce que l'état de notre terre, comme une terre agricole, hein, comme la terre, elle dépend de l'état des trois autres éléments. Parce que tout ça, c'est pas de se dire « moi, je suis terre, moi, je suis feu ». Non. J'ai un équilibre qui m'est propre, qui évolue dans le temps. Voilà, je pars d'un endroit. On a hérité d'une structure, d'un état avec plutôt ceci ou plutôt cela. Et après, j'ai envie de dire, notre job, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on arrive à équilibrer. C'est-à-dire que, alors on n'arrivera pas tous au même endroit, hein, on est bien d'accord, mais qu'à un moment donné, si par exemple, dans la famille, on est tous très terre, d'accord ? On peut peut-être se dire que dans mon évolution et pour mon déploiement plein entier, ce serait peut-être pas mal d'aller aussi déployer quelque chose d'un petit peu plus léger, hein, du genre de l'air, quoi. Peut-être que ça serait peut-être pas mal, ça serait intéressant peut-être que je ne reste pas que dans le faire, l'agir, le concret. J'ai pas développé, mais voilà, la matière. Et que j'aille peut-être aussi... peut-être à partir de ce faire, hein, mais faire des choses un peu plus créatives, par exemple. Ou faire des choses qui sont dans l'émotion. Vous voyez, on peut contourner. plus je vais être équilibré et mieux j'irai dans ma vie. D'accord ? Si j'ai trop d'air, c'est chouette l'air, hein, c'est sympa, c'est léger et tout. Ah, les gens qui ont 25 000 projets, intentions à la minute, qui vous pondent des trucs, et ça ne s'incarne jamais. Jamais. Ça reste là-haut, perché. D'accord ? Ah, des créatives, mais des idées, mais merveilleuses, mais jamais ça te met en musique. Qu'elle le dire. D'accord ? Voilà. À un moment donné, ça veut dire qu'il y a trop d'air. Et puis ça peut même aller jusqu'à de l'inconsistance, voire même de la moquerie. Hein. Ça peut aussi y en avoir un air vicié. Hein, le mauvais air, hein, le mauvais, vous voyez, le mauvais état, mauvais esprit. Ça dit ça, hein, nos expressions populaires nous donnent des informations dessus. Donc, quand l'air est bien, va bien, ça fait de l'humour, de la vitalité, c'est léger, c'est agréable, c'est sympa, et ça fait plein de créativité. S'il n'y en a pas assez, on étouffe, hein, si on ferme tout là. Vous allez vite voir qu'on va vite manquer d'air, hein, d'accord ? On va vite pas être bien, on étouffe, on se sent oppressé, il n'y a plus rien ne peut se mettre en place, d'accord ? C'est en ça que c'est le premier élément. Et on meurt d'asphyxie beaucoup plus vite qu'on ne meurt d'inanition. Hein. Okay. Voilà. Donc si j'ai trop d'air, bah, ça devient consistant, et ma terre va devenir inconsistante, hein, hyper friable. Voilà. Si par contre, j'en ai pas assez, bah, ça fait une terre qui est tellement lourde que je ne peux rien ensemencer. On peut faire la même chose avec le feu. Hein. Trop de feu, c'est la passion, ça brûle et ça consomme tout. Donc il n'y a plus rien qui peut vivre. Hein, sur une terre calcinée, il n'y a plus rien qui vit. On a tout détruit. Donc il y a des gens, c'est des spécialistes. Hein. Ils ont un feu tellement dingue que c'est de la jalousie tout le temps, c'est de la passion tout le temps. Tout feu, tout flamme, ça brûle, ça s'enflamme, ça recommence ailleurs. Enfin bon, c'est des vies qui sont souvent très chaotiques et douloureuses. Mais par contre, si j'ai pas de feu, c'est vachement froid. Caille, caille, caille. D'accord ? S'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas de convivialité, s'il n'y a pas de mouvement, c'est la dépression, en gros. Hein. Au contraire de trop de... Et donc la dépression, c'est trop d'émotions, notamment. Il y a beaucoup de pensées aussi hein, dans la dépression. Mais voilà, quand il y a trop d'émotions, quand c'est les émotions qui ont le dessus, à fond, il n'y a plus de place pour la vie, pour le concret. Même les idées, même la créativité, elle, c'est de la soupe, quoi. D'accord ? Ça devient complètement liquide, ça ne peut plus prendre forme. Et donc c'est pour ça que le corps, en fait, il est l'élémentaire, donc notre corps, notre santé, santé... physique, santé relationnelle, santé économique, et ben c'est le résultat aussi de l'équilibre de nos trois éléments. Donc c'est toujours intéressant, quand on commence à pas aller bien, de dire où est-ce que ça merdouille ? Qu'est-ce que je peux mettre peut-être en plus ? D'accord ? Et on va travailler toujours par complément. Parce que si je suis naturellement très feu, les gens qui sont très feu, quand je leur dis vous essayez peut-être prendre un bain ? Hein, un bain ? Non, une douche. En 2050. Ok, quand vous vous lavez les mains, vous pouvez prendre 10 secondes de plus pour prendre conscience de l'eau sur vos mains. Vous parlez de quoi ? D'accord ? Donc, aller chercher l'opposé, c'est trop compliqué. Ça demande trop d'énergie, c'est trop éloigné de nous. Donc, on va passer plutôt par les complémentaires. Ok, quelqu'un qui a vachement de feu, eh ben, je vais essayer plutôt d'aller faire des choses concrètes avec son feu. T'as vachement d'énergie ? Eh ben, écoute, tu sais quoi ? Va casser des cailloux. Fais de la sculpture. Taille du bois. Utilise ton énergie dans quelque chose de concret. Et puis en plus, tu auras la satisfaction, donc ça va mobiliser de l'émotion. Hop là, ça y est, si je suis, c'est là où je veux être. D'accord ? Attaquer plein front, ça marche jamais. Tous ceux qui font l'art de la guerre le savent. Donc, on contourne, toujours. Et comme ça, on fait le tour et on harmonise. Donc, si on harmonise, on unifie. Alors, c'est pas une science exacte. Alors, on prend ça avec du recul et de la pondération. Hein, d'accord ? On n'en fait pas un absolu. C'est des pistes de lecture, c'est une façon de lire les choses. Hein, ok ? Je veux pas, excusez-moi. Alors moi je suis terre, hein, comme d'autres vous diraient, moi je suis Ennéagramme 7. Non, parce que ça nous libère pas, ça nous enferme. D'accord ? C'est vivant, c'est profondément vivant comme la terre est vivante. Vraiment, et comme on a été créé pour la vie, la vitalité, donc forcément le changement et d'une certaine manière le déséquilibre. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai mis le trauma à part parce que le trauma, on l'a travaillé. Quand on est face à une épreuve ou quand on est face à une blessure, eh ben, qu'est-ce qui va se passer ? L'élément dans lequel on est déjà un peu en excès va souvent, pas toujours, mais souvent, encore s'accentuer. Si l'exemple le plus évident, on le voit très bien et les maîtresses le savent très bien, quand un enfant est confronté à quelque chose qui est douloureux pour lui, épreuve ou blessure, et ça, c'est un peu le temps qui va parfois nous le dire, hein, si c'est l'un ou si c'est l'autre quand même, Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant qui était déjà assez naturellement un peu au fond de la classe, hein, pour avoir le temps de s'échapper par là. C'est quand même vachement mieux ce qui se passe là-bas. Hein. Quand on est R, on a envie de rêver. Hein. Donc le tableau, la craie, le cahier, c'est direction stratosphérique. D'accord. Donc on va avoir des carnets. Devient évanescent. Si les nuages pouvaient s'inscrire sur son cahier, ça, on serait mieux. Enfin voilà. Donc l'enfant s'échappe dans le rêve, s'échappe dans l'imaginaire. Imaginaire. Voilà. Donc l'air va avoir tendance à, quand il augmente, ça fait encore plus de rêverie, encore plus d'imagination, encore plus positive ou négative. C'est-à-dire que négatif, ça va être du cauchemar, par exemple. D'accord? Ou ça va être des imaginations un peu dures. Et ça va très concrètement, hein, nous on le voit, alors je travaille moi qu'avec des adultes, mais ça n'empêche qu'ils me parlent de leurs dessins, des dessins d'enfants, hein, des dessins qui vont devenir compliqués, un peu douloureux. D'accord? Des choses très, très, très noires, etc. C'est pas grave, hein? Il vaut mieux qu'il le dessine plutôt qu'il le garde à l'intérieur. Il vaut mieux qu'il l'exprime plutôt qu'il ne l'imprime. D'accord? Donc c'est OK, hein? Oh, c'est horrible ton dessin! Mais attends, mais t'as fait des morts! Oh là là! On va t'emmener voir un psy. Ok, t'as voulu dessiner. Ah ouais, hein. T'as voulu dessiner quoi? Parce que ce que moi je comprends, je fais un tips là, mais il y a eu trop de choses. Attends, moi ce que je vois de mes yeux d'adulte, oh là, t'es en train de dessiner papa qui a tué maman. Hein, parce qu'il y avait un monsieur avec un. Donc, elle a tous aimé l'assistante sociale, le truc de malade. Ouais, non, bah, c'est les grands méchants loups, et puis bah, c'est le chaperon rouge qu'on a lu l'autre jour. D'accord, c'est le chasseur qui tue. Alors, c'est sûr que ça ressemble. Enfin, et avec le couteau, c'est le petit chaperon rouge, c'est après, en fait. Après qu'il a sorti le petit chaperon rouge du ventre du loup, et bien, il est avec le couteau, et puis il y a le petit chaperon rouge à côté de lui. Ah, ok, c'est ça ton idée. Ah, ok, bah, c'est pas ce que j'avais compris. D'accord? Ça, déjà. Et puis deux, quand bien même il aurait dessiné papa ou un homme en train de tuer une femme ou avec un vrai, il nous parle de quoi? Il nous parle pas forcément de son réel, hein? D'accord? Et puis peut-être que s'il s'est passé des choses très dures, c'est sa façon à lui de dire les choses. Donc, on respire, on boit frais et on voit ce qui se passe. D'accord? Voilà. Et point aussi important, on écoute la parole de l'enfant, tel qu'il l'a dit lui. On n'interprète pas. Et s'il faut, on note mot à mot et on pose pas trop de questions. D'accord? Et on n'induit pas. Mais attends, là c'est bien un couteau que je vois. Non, non, c'est pas du tout un couteau. Un couteau, mais n'importe quoi. C'est, je sais pas quoi, c'est le, c'est, tu sais, c'est le bâton que mon grand frère il a là dans sa chambre. Ah, le staff, le scout. Ah, d'accord, ok. Ok, ça ressemble à un couteau dans un dessin d'enfant de 4 ans. Ok, voilà. Donc on fait attention à ça. Donc l'imagination, l'enfant peut partir complètement dans l'air. Plus, plus, plus. L'adulte aussi, hein. Mais l'adulte, il est moins lisible parce qu'il est plus compliqué, hein, plus complexe, donc plus compliqué. Chez un enfant, ça se voit mieux. Ce qu'on voit chez l'enfant, on peut le voir aussi chez nous, hein. Donc ça nous donne des indications. Quand on sait, dès qu'on a une difficulté, hop là, on va se réfugier dans. Je regarde plein de films, je fais de l'humour, ils m'ont compris l'humour noir. Là, ça nous dit que du ce côté-là, il y en a beaucoup, pas mal d'air, et sans doute qu'on essaye de faire comme on peut. De ce côté-là. D'accord? Qu'il y a des blessures et que donc, du coup, au lieu de le vivre de façon tranquille, ça s'accentue. Quand mon tempérament est plutôt feu naturellement, que cet élément-là, en tout cas, est très fort chez moi, quand je suis confrontée à une épreuve ou quand je suis blessée, eh ben, je m'emporte encore plus. D'accord? Je mets encore plus de feu. Donc, ça va être, je m'emporte, souvent sur le plan des émotions, on va plutôt avoir de la colère, on va avoir de l'emportement, c'est vraiment le premier du terme, hein, avec, ça peut être des passages à l'acte, ça peut être, voilà, ça peut être de la haine. Alors, ça s'extériorise parfois, ça s'intériorise. Hein. D'accord? Il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent se lire comme je me consume de l'intérieur. Quand c'est plutôt l'eau qui est là, alors ça nous rassure, c'est assez bon, ça pleure. Oui, enfin bon, ça pleure, et puis il y a des émotions. Enfin, on peut se noyer pas dans un verre d'eau, mais on peut se noyer dans ses émotions aussi, d'accord? Donc le pleur, il est bien, mais si en même temps il est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, il finit par devenir problématique, d'accord? Donc quand je suis face à une épreuve et que il n'y a que de l'émotion, bah, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux trouver des ressources intérieures, extérieures pour passer par autre chose, pour écrire par exemple déjà, parce que je vais être un peu plus dans le faire, pour éventuellement pleurer, mais en faisant quelque chose de concret, voilà, avec mes mains, avec la danse, voilà, pour sortir de juste l'émotion pure qui est fluide, inconsciente, vous voyez, qui n'a pas de forme, qui peut se répandre partout et venir tout envahir, inonder. Le deuxième mode d'eau qui fonctionne pas bien, hein, quand il est trop sollicité, c'est je stagne, l'eau stagnante. voilà, qui devient bien marronasse assez rapidement, bien, voilà, et ça marne. Hein, et les gens se sentent un peu, ouais, enfin on les sent, ils sont un peu glauques, ça bouge pas vraiment, mais c'est pas là, enfin voilà, il y a un truc qui marnouille là, et voilà, l'eau là n'est plus équilibrée, et ça veut dire que la personne, ça indique qu'il y a une difficulté de ce côté-là. Et puis quand c'est la terre qui est plutôt là, bah, c'est le fer, donc les gens en font de plus en plus, d'accord? Voire ou détruisent, ça va aussi dépendre un peu derrière ce qu'il y a comme complément. Je vais en découdre, je vais essayer de trouver des solutions. Voilà. Enfin, j'ai un problème, j'ai une épreuve, je vais trouver des solutions, je vais en faire plus. D'accord. Donc on peut aller loin dans le process. Okay. Donc, mine de rien, ça nous donne des informations un peu de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux lire que je suis confrontée à une épreuve ou que je suis confrontée à une blessure. Spontanément, c'est l'élément que j'ai déjà un peu en excès qui va devenir encore plus en excès. Celui qui est un peu dominant qui va passer en excès, le plus souvent. Parfois, c'est l'inverse, il va se vider. C'est-à-dire que je vais plus faire confiance à celui-là, mon système va switcher et va aller mettre à l'opposé. Donc l'enfant qui était hyper imaginatif, je vous donne un exemple assez simple. Justement, on va reprendre cet enfant qui fait des dessins. Et puis on lui a critiqué son dessin, on lui a dit que de toute façon il était nul en dessin, que de toute façon ça voulait rien dire, etc. Donc il est blessé à cet endroit-là, d'accord? Et bien, s'il peut plus faire confiance en son élément R, qui est là, disponible, il va aller où? Il peut aller où? À l'opposé, ouais, dans la rage. Donc à l'opposé, d'accord? Et où dans la destruction, voilà, il va aller à l'opposé, d'accord? Donc ce qui doit nous alerter, pour nous comme pour les plus jeunes, c'est le changement de comportement. Quelque chose qui s'accentue ou quelque chose qui versatile. Pouf, ça tombe ailleurs. Ça nous signe, il s'est passé quelque chose. D'accord? Maintenant, ou il y a 10 ans. Parce que parfois, ça sort après. C'est pas toujours tout de suite, hein. Ça peut attendre très longtemps. Je disais, il y a 70 ans. D'accord? Ça peut attendre très longtemps. Mais c'est là. Tant que c'est pas nommé, assumé et traversé. Seul. Enfin seul, avec les ressources, toutes petites ressources autour, enfin voilà, ce que j'ai là vraiment très disponible, avec un peu plus large, je prends des cours de ceci, je me forme à telle chose, etc. Ou avec des professionnels qui savent, dont c'est le boulot de faire ça, d'aider à guérir, d'aider à soigner.